tout de suite sur MDM. Les Landes, c'est ma nature. L'environnement dans notre région. Avec Jeanne-Marie et Marie-Claire. Les Landes, c'est ma nature.
Je suis donc à la ferme de Rudé, chez Émilie Deligny, qui va se présenter maintenant.
Oui, bonjour, donc je m'appelle Émilie Deligny et je suis paysanne à Par-le-Bosc.
Qu'est-ce que ça veut dire, paysanne à Par-le-Bosc?
Ma paysanne, c'est qui travaille la terre, qui vit dans son pays. Donc moi, je suis paysanne, j'élève des brebis, des poules et un peu de maraîchage diversifié aussi.
Vous êtes sur une petite ferme, pas sur une grande exploitation.
Voilà, je suis sur une petite ferme, une surface de 12 hectares, donc c'est relativement petit par rapport à ce qu'on peut rencontrer couramment.
Quelle est votre formation précédente?
Ben moi, je suis pas arrivée directement à l'agriculture. Moi, j'ai fait des études dans l'agroalimentaire. Et à l'issue de cette formation, j'ai fait un stage dans l'expérimentation végétale. C'est comme ça que je suis arrivée à l'agriculture. C'était un stage sur des expérimentations de lutte raisonnée. Donc, c'est aussi par ce biais-là que j'ai découvert l'agriculture biologique. Donc, suite à ce stage, je me suis réorientée en faisant une formation en agriculture biologique à l'INITA de Clermont-Ferrand. À la suite de cette formation, j'ai travaillé un peu dans le développement agricole, donc notamment dans les CIVAM bio. C'est des associations d'agriculteurs bio qui travaillent pour aider les agriculteurs dans leur pratique dans l'agriculture biologique.
Alors le CIVAM bio a d'ailleurs changé de nom maintenant et il s'appelle...
Donc maintenant dans les Landes, le CIVAM bio est devenu l'Agrobio 40.
Voilà. Alors, Agrobio 40 qui est installé à Eureleuil, tout à fait loin de chez vous.
Oui, ça reste les Landes, mais c'est pas la porte à côté.
Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix d'une agriculture qui préserve l'environnement, agriculture ou des activités agricoles d'une façon générale?
Donc moi, je suis arrivée à l'agriculture par l'agriculture biologique. Donc c'est vrai que je ne connais, on dira, pas grand-chose à l'agriculture conventionnelle dans mes pratiques. Donc pour moi, c'était une évidence de pratiquer ce mode d'agriculture parce que c'est ce que moi, je voudrais manger. Enfin voilà, l'alimentation que je choisis, c'est cette alimentation-là. Et aussi donc par le choix de préserver les sols, de préserver l'environnement, et de travailler avec la nature et de la garder vivante. Et voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur.
Alors vous êtes arrivé ici à Par-le-Bosc, qui est quand même au fond du Gabardin. Hein, alors ça fait quand même presque une heure depuis Mont-de-Marsan.
Petite heure.
Vous êtes tout près du Gers. Alors pourquoi Par-le-Bosc? Exactement le quartier d'Esperoux d'ailleurs.
C'est les hasards de la vie, on va dire. Moi, avant d'être ici à Par-le-Bosc, j'étais à Vielle-Soubiran sur une autre ferme, mais en fermage. L'idée un peu, c'était de faire évoluer la ferme et d'être propriétaire. Et donc, par le bouche à oreille, on a entendu parler d'un terrain qui se vendait sur Par-le-Bosc, qui était déjà en agriculture biologique. Donc ça a été vraiment aussi un point très, très positif. Et quand on est venu voir le terrain, ça a été le coup de cœur, parce que c'était vraiment bien situé, l'environnement était agréable. Et donc du coup, on a vu qu'on pouvait faire des choses intéressantes sur cette terre.
Alors, on va parler là dans un tout petit moment de ce que vous avez fait justement dans ce champ de maïs, puisque vous y avez établi votre maison vous-même. Mais avant, moi j'ai une question à vous poser. J'aimerais savoir si vous avez trouvé difficile de trouver un terrain pour l'agriculture dans les Landes.
Oui, ça n'a pas été chose facile parce que ça n'a pas été non plus la première. Ça a été compliqué parce que c'est pas facile de trouver des petites surfaces à un prix abordable et que. Du coup, c'est vrai que c'est un frein à l'installation en agriculture sur des petits projets. La recherche de foncier, souvent, c'est ce qui freine l'installation de personnes qui veulent soit faire du maraîchage sur des petites surfaces ou de l'élevage. Et c'est vrai que ça pêche de ce côté-là pour s'installer.
Alors, on va parler un petit peu de votre maison parce que vous êtes arrivé sur un champ, il a fallu construire la maison. Et en plus, vous avez tout fait vous-même. Expliquez-nous un peu ça.
Oui, donc quand on est arrivé, c'était un champ de maïs. Donc il a fallu d'abord établir un camp de base et pour faire démarrer la ferme assez rapidement. Donc on a commencé par construire un hangar dans lequel on avait fait une petite partie habitable. Et une fois que la ferme a démarré, on a pu se consacrer à la construction de notre maison, qui est une maison en paille, en bois et en terre, voilà, avec que des matériaux écologiques et nobles.
Alors, c'est un petit peu comme la maison des petits cochons, la maison en paille.
Ça, c'est ce qu'on entend très souvent, effectivement. Mais le loup peut souffler et il aura du mal à la faire décoller.
Alors, on va rentrer un peu dans les détails parce que c'est une maison tout à fait originale. Vous allez nous parler d'abord de la façon dont vous l'avez conçue, parce que vous avez vraiment fait tout vous-même avec votre mari, peut-être aidé par des amis ou de la famille. Et ensuite, quels matériaux vous avez utilisés? Il y a des matériaux très originaux, là.
Oui, alors donc c'est une maison qu'on a fait avec mon mari, tous les deux. Et c'est vrai qu'il y a quand même des fois des chantiers qui demandent un peu de bras. Donc il y a quand même des amis qui sont venus nous aider, notamment pour monter les murs en paille. Donc c'est vrai que ça a été un projet qui a duré quand même presque un an à temps plein et quelques week-ends aussi pour finaliser l'ouvrage.
Alors, quel bois avez-vous utilisé?
Alors, c'est une maison donc, avec que des matériaux locaux. Le bois, c'est du pin des Landes. Voilà, on n'est pas allé le chercher bien loin. C'est vrai que sur des constructions comme ça, il y a des gens qui utilisent des bois du pin, du mélèze ou des bois un peu plus durs, on va dire. Mais nous, on a préféré rester sur le choix local. La paille, elle vient aussi du gabardin. Et la terre vient du fond du jardin.
Alors, où est la paille?
La paille est à l'intérieur des murs. En fait, c'est une méthode qu'on a utilisée, nous, la technique Greb. C'est la paille est insérée dans une ossature en bois, qui est la structure porteuse. C'est pas des murs en paille porteuse.
Alors, on va s'interrompre pour présenter une première chanson et ensuite on reprendra la construction de cette maison. Vous avez donc une chanson à nous proposer.
Oui, je vous propose d'écouter Louise de Thomas Fersen en une petite dédicace à ma fille.
Hello Louise, sont des portes d'église où j'entre le matin. Le chapeau à la main, t'es la voix Louise, penses-tu ce qu'elles me disent? Ou c'est du caraco, le rubis d'un mégot? Après tout peu importe, où j'allume ma clope, au premier feu du jour, ou aux foudres de l'amour. Si les miennes se grisent, à tes lèvres Louise. Sur tes lèvres Louise, les miennes sont assises. Je ne décolle plus les fesses de ce banc de messe. Tes lèvres Louise, crois-tu ce qu'elles me disent? Où cette basilique est un kiosque à musique? Après tout peu importe, où j'allume ma clope. Si ce n'est pas l'amour, ce sont les alentours. Si les miennes se grisent, à tes lèvres, Louise. Ta lettre, Louise, est arrivée tantôt. De tes lèvres cerises, elle porte le sceau. Tes lèvres, Louise, me donne congé, ma rage s'épuise sur mes ongles rongés. Paris te contient et je suis jaloux comme un chien. Je reviens gratter à ta porte. Tes lèvres sont closes, Louise, tu m'envoies sur les roses. Dis-moi quelque chose, rien. Je ne veux plus que tu passes la nuit en bas de l'avenue sous un parapluie.
Je me trouve à la ferme de Rudé, chez Émilie Deligny, qui est installée dans le quartier d'Esperoux, une très jolie petite ferme qu'elle vient de nous présenter après avoir parlé de son parcours. À la fin de notre premier volet, elle nous avait présenté sa maison, maison originale qui a été construite donc avec son mari, une maison entièrement en matériaux naturels. Donc elle nous a parlé notamment du pin des Landes, qui est effectivement le cœur de la maison, et maintenant il y a d'autres matériaux.
Oui, donc l'isolation par exemple de la toiture est en laine de mouton. moutons. Alors c'est pas avec la laine de nos moutons, parce que celle-ci, avec celle qu'on a utilisée, a été un peu travaillée, mais donc du coup c'est une isolation qui se présente comme les rouleaux qu'on a l'habitude de trouver dans le commerce, mais en laine de mouton, qui est plus facile à mettre en œuvre que de la laine brute.
Et pour alors les murs, les enduits, la peinture.
Alors les murs sont en enduit en terre, comme je disais tout à l'heure, avec la terre du jardin. Le sol aussi, une partie du sol est en terre. Et après sur les peintures, on a utilisé des peintures avec des recettes maison, de la peinture au fromage blanc, de la peinture à la pomme de terre aussi pour mettre un peu de couleur, parce que celle-ci on peut la teinter plus facilement, et aussi pour le sol de la peinture à l'œuf, de la tempéra.
Alors la maison est surélevée en partie puisque vous êtes sur un sol en pente. Comment avez-vous comblé le vide?
Alors la partie dénivelée, on a comblé le vide avec de la terre bien tassée. Ensuite on a sous nos pieds un hérisson de gros galets de 12-15 cm. Après encore une épaisseur d'une dalle en chaux chanvre. Et enfin, le sol sur lequel on pose nos pieds est une dalle en terre crue.
Vous avez parlé tout à l'heure du sel, système d'échange local. Donc il y a un sel dans le gabardin. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ce système pour les auditeurs et nous dire comment il fonctionne?
Alors le sel, système d'échange local, c'est une association qui permet à des personnes de faire des échanges de biens, mais surtout de services, sans échange d'argent. C'est uniquement la valeur du temps qui est comptabilisée, et quel que soit le service rendu, le temps est le même. Et donc nous, c'est vrai que quand on a voulu faire la maison, quand on a eu besoin de main d'œuvre pour, par exemple, comme je disais tout à l'heure, les murs en paille, on a fait appel à nos amis cellistes, comme on les appelle, et c'est vrai que ça a été bien, bien utile et bien agréable, parce que c'est toujours des moments d'échange et de partage qu'on apprécie.
Donc le sel, c'est un lien social qui est nécessaire dans une région comme la Gabardin, où la densité de population n'est quand même pas très forte, et ce qui permet donc de nouer ces liens entre les habitants du territoire.
Oui, et c'est vrai que sur, par exemple, nous, notre sel, on a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas issues du territoire, et donc des gens qui arrivent de l'extérieur, qui n'ont pas forcément de réseau pour partager des choses, et donc c'est vrai qu'ils arrivent dans notre sel et peuvent comme ça nouer des liens avec des voisins ou des gens un peu plus loin et qui peuvent leur rendre service, et vice-versa.
Vous avez un exemple de manifestation organisée par le SEL?
Alors le SEL organise régulièrement à Gabarret une gratiféria, un marché gratuit, le dimanche matin à l'occasion du marché, dans les arènes souvent. Et du coup, c'est vrai que c'est l'occasion de vider ses armoires et de peut-être trouver des choses qui nous plaisent et qui peuvent nous être utiles.
Eh bien, parlons un petit peu de la ferme de Rudet. Vous allez nous expliquer quelles sont les activités que vous menez sur cette ferme.
Alors sur ma ferme, j'ai donc plusieurs ateliers, comme on dit. J'ai un atelier de poules pondeuses, des brebis aussi pour la viande, pour les agneaux, et une parcelle de maraîchage diversifiée et de petits fruits.
Alors les poules et le renard?
Alors oui, les poules, le grand prédateur des poules, c'est le renard, donc c'est vrai qu'il faut être très vigilant par rapport à cet animal. Mais moi, j'ai réussi jusqu'à maintenant à préserver mon troupeau.
Alors comment avez-vous fait pour le préserver?
Le renard est souvent en chasse, on va dire, le soir à la tombée de la nuit. Donc l'idée, c'est de faire rentrer les poules dans la cabane avant 7 heures. Donc moi, je nourris mes poules deux fois par jour, le matin quand j'ouvre les cabanes. Et le soir, pas trop tard, j'arrive avec ma farine et elles me suivent sans problème pour rentrer dans la cabane.
Combien de poules y a-t-il?
Actuellement, j'en ai 150. 150 poules.
150 en parcours grillagé?
Ah oui, c'est tout en plein air. Bon, elles ont un parcours quand même pour délimiter, parce que les poules dans le jardin, c'est pas terrible. Mais sinon, elles ont quand même un grand espace pour gambader et picorer.
Et en ce qui concerne les brebis, alors, où les avez-vous?
Alors moi, j'ai les brebis en extérieur. Moi, je fais de l'élevage de plein air et elles sont dans les pâtures. Elles ne sont nourries qu'à l'herbe verte et au foin.
Vous avez également des petits fruits, vous faites des petits fruits, à partir des petits fruits, une transformation en sirop?
Oui, donc j'ai des petits fruits, et donc les petits fruits, ça a une conservation très limitée, donc quand ce que je ne commercialise pas sur le marché, je le transforme en sirop, et j'ai aussi une gamme un peu plus diversifiée, puisque j'ai aussi un peu de plantes, menthe, verveine, aussi je fais de la cueillette de sureau, d'acacia, voilà, pour avoir une diversité de goûts et de saveurs.
Vous vous êtes donc lancé dans une agriculture et une activité diversifiée. Alors bien sûr, il y a une raison à cela.
Oui, parce que au niveau de l'agriculture, c'est vrai qu'on n'est pas toujours, on est des fois pas à l'abri d'intempéries ou d'années qui se passent plus ou moins bien selon les cultures. Et donc c'est vrai que d'avoir cette diversification, ça permet de faire face aux aléas climatiques ou autres, d'avoir toujours un atelier qui peut en rattraper un autre, on va dire.
Par exemple, cet été, à la mi-août, vous avez subi la grêle.
Oui, j'étais mal placée. On a été impacté par un couloir de grêle. Et c'est vrai qu'une bonne partie du maraîchage a été impactée, mais les agneaux et les poules, elles, n'ont pas arrêté de... Par exemple, les poules n'ont pas arrêté de pondre. Donc c'est vrai que de ce côté-là, ça permet de se rattraper.
Oui, d'où effectivement l'intérêt d'avoir de la polyculture qui a souvent été, on va dire, un peu oubliée en France à partir du moment où la grande culture, la monoculture, l'a emportée, notamment avec la PAC, hein, la politique agricole commune. Et donc là, on a une démonstration qu'on peut vivre effectivement de polyculture et arriver à limiter les dégâts lorsqu'il y en a, parce que jusqu'à présent, eh bien, l'agriculture, elle est obligée de faire avec la météo. C'est le moment maintenant de passer à la seconde chanson. Qu'est-ce que vous nous proposez ?
Je vous propose donc maintenant d'écouter une chanson de Jeanne Chéral, « Quand c'est non, c'est non », une chanson qui parle de l'écoute de la parole des femmes, qu'elle doit être respectée.
Non.
ce troisième volet, je me trouve donc à la ferme de Rudet, à Parlebosque, dans le quartier d'Espereau, sur laquelle est installée Émilie Deligny, qui, dans le premier et le second volet, nous a présenté sa maison, faite entièrement donc avec son mari, en matériaux naturels, et ensuite qu'elle nous a parlé de sa ferme, de sa petite exploitation en polyculture. Alors, nous avons abordé les diverses productions qui sont les siennes, notamment dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de l'élevage. Et maintenant, alors, comment faites-vous pour vivre de votre activité?
Alors, pour la commercialisation, ça dépend des ateliers. Pour les agneaux, je pratique la vente sur commande en colis, des agneaux découpés sous vide par demi-agneaux. Donc là, il faut que les gens qui sont intéressés commandent. Et moi, quand j'ai des colis disponibles, je le fais savoir. Et ensuite, pour tout le reste, qui est les œufs, les légumes, les sirops, les petits fruits, tout ça, je le vends sur les marchés. Je fais deux marchés par semaine, le marché de Gabaret le dimanche matin et le marché de Sosse le mercredi.
Alors, les agneaux, c'est pas toute l'année?
Non, c'est pas toute l'année et j'en ai deux, trois fois par an des propositions de livraison.
Avec quelle race de brebis travaillez-vous?
Moi, j'ai des brebis, des limousines, les brebis, et après un bélier berrichon pour faire un peu plus de viande sur l'agneau, parce que les limousines sont des races très maternelles, donc elles s'occupent très bien des agneaux, mais après, pour faire des agneaux un peu plus charpentés, on utilise une race un peu plus forte.
Alors, effectivement, sur la page Facebook de la ferme de Rudet, on voit très bien une petite vidéo avec une brebis qui va aider son petit agneau, qui vient juste de naître, à se relever. Donc, et c'est effectivement une très jolie vidéo. En ce qui concerne la vente sur le marché, donc, vous avez dit que vous alliez à Sosse et à Gabaret.
Voilà, Sosse c'est le mercredi matin, marché du petit village de Sosse, et après Gabaret le dimanche matin, devant les arènes.
Est-ce que vous vendez vos produits ailleurs?
Après, je propose aussi la vente à la ferme, mais c'est plus sur rendez-vous. Vaut mieux appeler avant de venir parce que je ne suis pas toujours disponible sur la ferme.
Et les sirops, alors? Vous parlez des sirops que vous faites. Expliquez-nous quels sirops, comment vous faites?
Alors, les sirops, c'est des sirops de fruits ou de feuilles ou de fleurs. J'ai plusieurs goûts. Donc les sirops de fruits, c'est à partir des fruits de ma ferme, groseille, cassis, framboise, mûre. Mais bon, il y en a qui sont déjà épuisés pour cette année parce que quand j'ai plus de fruits, je n'achète pas de fruits à l'extérieur pour avoir des sirops toute l'année.
Et ensuite, vous avez d'autres sirops?
Et donc ensuite, j'ai des sirops de menthe, de verveine, d'acacia, de sureau, de fleurs de sureau. C'est très, très bon, ça aussi, très, très agréable.
Est-ce que ça a, par exemple, des vertus pour la santé?
Alors, globalement, les sirops de fruits, c'est quand même très riche en vitamines. Et après, les sirops de plantes ont les mêmes vertus que les plantes, par exemple, en tisane. Le sureau est très bon pour affronter les maux hivernaux.
Alors, je crois que je vais en acheter. Nous allons voir maintenant quels sont vos projets. Vous avez en tout cas un beau projet que vous allez démarrer cette année, puis peut-être d'autres projets après dont vous nous parlerez.
Oui, une ferme, c'est constamment en évolution. Un des projets comme ça, à très court terme, c'est d'agrandir un peu le troupeau de poules, d'avoir un peu plus de poules, parce que les œufs, enfin mes œufs sont tellement bons que les clients se bousculent, donc c'est toujours embêtant de ne pas pouvoir faire face à la demande. Donc de ce côté-là, je vais faire quelque chose. Et après, un projet aussi qui doit être mis en place cet hiver, c'est la plantation d'arbres dans les prairies. Donc, sur les parcours des moutons, l'idée, c'est de planter des fruitiers, des feuillus pour faire un peu de relief dans ces pâtures plates.
Alors, quel est l'avantage de cette agroforesterie, finalement?
C'est un double avantage. Enfin, déjà, nous, sur la ferme, on a toutes nos parcelles qui sont entourées de haies. Donc, il y a déjà un peu de végétation d'arbres autour des prairies. Mais l'idée, c'est aussi, à l'intérieur des prairies, de mettre des arbres qui puissent nourrir la terre. Parce que le couple arbre-culture est quand même quelque chose qui permet de valoriser et d'améliorer le sol. Et ensuite, c'est pour faire aussi un couple arbre-mouton pour donc profiter des arbres pour nourrir les brebis parce que c'est vrai qu'on se retrouve avec des années comme cet été de sécheresse, où l'herbe est quand même, une bonne partie de l'été a été absente, on avait un peu un paillasson sous les pieds des brebis, et de pouvoir profiter de la verdure des arbres pour les nourrir, ça peut être très profitable.
Alors effectivement, vous avez raison, parce que dans le passé, bon, il y a longtemps on va dire, hein, dans des textes qui sont, qui ont quelques siècles on va dire, on se rend compte que les animaux pâturaient dans les bois. Par exemple, les porcs, très couramment, on les lâchait dans les bois et ils se nourrissaient de glands par exemple, hein. Donc ça leur donnait certainement d'ailleurs très bon goût, hein, parce qu'ils avaient sans doute une chair très goûteuse. Et donc j'imagine que ça sera la même chose pour les moutons, puisque vous avez parlé à un moment notamment d'arbres fruitiers, donc les fruits parfois tombent, ils restent au sol, et que se passe-t-il ?
Ah oui, les brebis sont très friandes de pommes, de poires, mais c'est vrai que j'ai des parcelles, enfin un peu de bois sur une de mes parcelles avec des chênes, et les années où qui produisent beaucoup de glands, les brebis sont vraiment très heureuses et très belles. À la fin de l'automne, elle profite bien de toute cette nourriture.
D'autres projets encore ?
Bah là, c'est déjà un beau projet. Après, c'est vrai que ça permet d'avancer, de faire évoluer la ferme. Et peut-être, du coup, si on plante des fruitiers, peut-être qu'une des orientations pourrait être aussi la vente de fruits.
En Gabardan, il y a... pas mal d'agriculteurs quand même si je dirais que la population est quand même assez peu dense, mais il y a beaucoup quand même, l'activité agricole est essentielle. Est-ce que vous commencez, vous et puis les autres plantations qui sont en agriculture biologique à être un petit peu connues, reconnues dans l'ensemble de la région?
Je peux parler pour moi, après pour les autres, je sais pas, moi je sais que je commence à trouver un public et une écoute, une attention à ma façon de travailler, à ce que je produis. C'est vrai que de faire de l'agriculture de qualité, on va dire, moi je me qualifie comme ça, c'est toujours quelque chose qui est recherché par les consommateurs. Donc de ce côté-là, on ne peut que trouver une écoute favorable à notre pratique.
Alors, si nos auditeurs veulent vous contacter, comment peuvent-ils faire ? Il y a plusieurs moyens.
Oui, je suis très joignable. vous pouvez me trouver sur Facebook. J'ai une page Facebook, donc La Ferme de Rudet. Ensuite, j'ai un site internet qui est www.laferme-derude.com. Non, .fr, excusez-moi.
Vous le redites, s'il vous plaît ?
laferme-derude.fr. Donc là, sur ce site, vous retrouvez toutes mes productions, tout ce que je fais, et je décris la façon dont je travaille. Et ensuite, vous pouvez aussi me joindre par téléphone au 06 36 58 17 26. 06 36 58 17 26. Et aussi sur le site internet, vous avez une page de contact sur laquelle vous pouvez me contacter par mail. Voilà, si jamais par exemple vous souhaitez être intéressé par l'agneau, vous m'envoyez un mail et moi je vous mets dans mes contacts.
Alors c'est parfait. J'espère que les auditeurs seront nombreux à vous contacter. Nous allons nous quitter maintenant, c'est le moment. Je vous remercie de votre accueil. Merci de m'avoir reçu. Et je dis au revoir à tous les auditeurs. Adi Schatz.
Adi Schatz.
C'était Les Landes, c'est ma nature, l'environnement dans notre région, avec Jeanne-Marie et Marie-Claire.
Les Landes, c'est ma nature, le lundi de 15h à 15h30, rediffusion en trois parties, le mardi, le mercredi et le jeudi à 13h sur MDM.